Fréquence Mistral.
Aujourd'hui, on a un invité particulier dans les studios de Fréquence Mistral, c'est Adam Bory. Adam Bory est avocat marseillais, il est de tous les combats, c'est simple. Quand il y a un procès un petit peu polémique sur Marseille, on retrouve son nom, on retrouve sa photo dedans. Bonjour à toi Adam.
Salut Yacine.
Bonjour, ça fait plaisir de te recevoir dans nos studios. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter? Parce que c'est difficile de présenter un avocat, j'ai toujours du mal à réussir à situer... Un avocat.
Alors moi, on m'appelle pas maître, mais double maître 80, parce que je suis parce que je suis un peu grand, c'est ma petite punchline. Voilà, je suis avocat au barreau de Marseille depuis 2 ans, et je suis syndiqué au syndicat des avocats de France. Mm-hmm. À ce titre, on défend les intérêts matériels et moraux de la profession en général. Et c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvé dans des procès plutôt politiques que polémiques, mais bon, souvent ça va ensemble. Surtout de nos jours, y a pas de difficulté là-dessus. Je suis spécialisé en droit pénal, droit locatif et droit un petit peu de la famille et des personnes en général.
D'accord, donc ouais. C'est des procès politiques plus que polémiques, mais c'est vrai qu'ils font souvent la polémique, on les retrouve souvent dans les médias, dans les journaux, et des fois sur certains médias qu'on apprécie moins ici à Fréquence Mistral. Donc Adam, je te reçois à l'occasion du procès contre les marchands de sommeil. Je sais que tu es de cette aventure-là, si on peut nommer ça comme ça. Est-ce que tu peux nous dire déjà si pour toi ce procès contre les marchands de sommeil, c'est un combat personnel, professionnel? Est-ce que c'est les deux en même temps?
Alors moi, c'est les deux. Puis à la base, je faisais du droit des étrangers, mais en droit des étrangers on perd beaucoup et c'est un petit peu déprimant quand même. Mmh, ouais. Donc petit à petit je me suis lancé sur le droit locatif plus tout ce qui était expulsion locative. Oui. Sauf qu'à Marseille, depuis qu'on a activé le pôle de lutte contre l'habitat indigne, qui est un service de la mairie et aussi un service du procureur, donc celui qui est en charge d'instruire à charge et à décharge des affaires sur ce qu'on appelle les marchands de sommeil, a été fortement réactivé depuis la rue d'Aubagne, en fait.
Oui, en fait.
Le point de départ, c'est la rue d'Aubagne, parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il ne fallait pas attendre que 8 personnes meurent sous les décombres pour poursuivre des personnes qu'on peut appeler des marchands de sommeil. Mm-hmm. Donc, des procès contre des marchands de sommeil, il y en a eu plusieurs. En ce moment, moi, le mien que j'ai fait là récemment, du 12 au 14 mars, c'était contre M. Zenou. Qui était un ancien boucher de Noailles, qui en fait avait plein d'immeubles à Noailles, et on a pu l'accuser notamment d'avoir construit sa fortune sur la CAF en logeant des personnes vulnérables pour être sûr de toucher la CAF et pour pouvoir se bâtir un empire immobilier qui fait aujourd'hui plusieurs millions d'euros. Il avait un revenu net à peu près de 120 000 euros par an. Lié à ses logements.
Ouais. Sur le dos de personnes précaires, il faut le préciser.
Sur le dos de personnes précaires avec des logements insalubres. Il faut préciser aussi des logements insalubres mais chers. Moi, mes clients, ils avaient un T1 à 700 euros par mois. Ils vivaient à 4 dedans, c'était moisi, c'était pourri, rien aux normes, pas de chauffage, rien qui va. Ouais. Mais ces personnes-là, elles se taisent. Et par ailleurs, c'est intéressant d'un point de vue sociologique parce que ces personnes-là, elles acceptent.
Oui.
Elles n'ont pas l'impression de vivre dans un taudis, en fait. Elles vous disent, mais ça va, moi, j'ai un toit sur la tête, ça va bien. Elles ont ce sourire et tout, malgré tout, c'est incroyable, cette force humaine d'avoir ce sourire-là. Elles ont un seuil d'acceptabilité qui est beaucoup plus fort. Alors, heureusement qu'il y a eu des enquêtes et heureusement qu'il y a des procès, parce que petit à petit, les marchands de sommeil, enfin, ce qu'on appelle les marchands de sommeil, c'est pas du tout juridique, un marchand de sommeil. L'infraction juridique, c'est soumission de personnes à des conditions d'hébergement indignes à la vie humaine.
Okay.
Donc indigne, c'est ce que tout le monde considère qu'on ne devrait pas accepter.
Oui.
Voilà.
Qui met aussi la santé en danger, parce que j'imagine les moisissures, le froid. Donc c'est quand même des conditions indignes, mais même impossibles à vivre dans le long terme, pour les enfants, pour les gens un peu malades ou autres, non?
Alors oui, tout à fait, pour les enfants qui sont souvent des problèmes d'asthme, qui ont honte aussi, parce que l'indignité, c'est pas que la santé, c'est la honte, par exemple, d'amener ses petits camarades à la maison, de dire « je t'invite chez moi, on va prendre le goûter avec mes parents », non, et ces personnes-là ne peuvent pas, elles ne le font pas, parce qu'elles ont honte de leurs conditions de vie. Tout simplement.
Donc justement, on parle de ce procès contre donc, ce marchand de sommeil. On va utiliser ce terme générique parce que c'est plus simple.
Oui, c'est un terme qui vient des médias et qui est clair et, qui, et qu'il faut utiliser. Hein. Il n'y a aucune difficulté.
Et qui est plus facile, on va dire, que à donner sur, à la radio. Mais donc, comment on fait pour... comment on les repère déjà, ces marchands de sommeil? Quelles sont les méthodes là, aujourd'hui qui sont employées pour les débusquer, on va dire?
Alors, il y a eu, comme je disais, il y a eu un avant et un après de la rue d'Aubagne. Mmh. Avant la rue d'Aubagne, il y avait des signalements de la mairie, il y avait des plaintes des avocats, il y avait les associations aussi qui font du droit locatif, notamment l'Empile, qui est à la fois un bailleur social, à la fois une association, Droit et Habitat, et un certain nombre de collectifs qui dénonçaient ces faits-là à la mairie et au procureur. Il y avait un pôle de lutte contre l'habitat indigne dans les services du procureur, mais qui ne fonctionnait pas en fait. Mmh. Et ça a été reproché pendant la rue d'Aubagne, parce que c'est-à-dire que la mairie ne transmettait pas au parquet. Donc le parquet, c'est comme le procureur, hein. C'est pareil, je
oui.
précise.
Oui, c'est bien
mais,
de préciser.
Voilà. Je trouve que parquet, c'est plus clair, quoi. Mmh. C'est, voilà. Donc il transmettait au parquet, mais non, et le parquet, enfin non, en fait, la mairie ne transmettait pas au parquet.
Oui.
Ce qui fait que le parquet avait arrêté de fonctionner.
Okay.
Donc après la rue d'Aubagne, il y a eu un après. La mairie s'est dit ok, on va transmettre des plaintes au parquet. Mmh. Et en plus de ça, le parquet a mis en place un service d'enquête où il y a actuellement deux personnes qui en fait font que ça, c'est deux policières. Mmh. Moi je leur rends hommage, alors faudrait peut-être pas enregistrer ça rendre hommage aux policiers, peut-être qu'on me le reprochera, mais,
mais on peut rendre hommage à ceux qui font bien leur métier, hein, c'est vrai.
Voilà, et elles font bien leur métier et surtout leur spécialité, en fait c'est un petit peu la traque entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une traque, hein, c'est des enquêtes qui sont cadrées légalement et qu'elles font bien. Voilà, donc il y a ces deux policières là qui font bien leur métier et qui font des enquêtes. Donc, les enquêtes, ça va aller de la garde à vue. Si les personnes refusent de coopérer, ben, en fait, elles sont placées en garde à vue. Et on va leur poser un certain tas de questions. On peut éventuellement saisir leurs biens immobiliers dans l'attente du procès. Il y a tout un certain nombre d'actes. Elles peuvent être mises sur écoute, en fait, comme une enquête classique qu'on ferait à l'égard de trafiquants de stupes. Ben, là, on les fait à l'égard de personnes qui sont réputées comme étant des marchands de sommeil.
Alors la question qui me vient quand même, parce que c'est mon point de vue, mais deux personnes pour tout Marseille, ça me paraît d'être, j'ai pas impression, c'est pas un peu écoper la mer avec une petite cuillère, non?
Alors un petit peu, mais en fait on se réjouit de ce qu'on a, parce que
avant il y avait rien et aujourd'hui c'est déjà ça, quoi.
C'est déjà ça, et en fait on a à peu près les mêmes problématiques en Seine-Saint-Denis par exemple. Moi je parlais avec une camarade de Seine-Saint-Denis qui me disait bah, en fait eux ils ont plus de monde, les mêmes problématiques, et ils ont pas d'enquêteurs.
Okay.
Spécialisé. Donc ça tombe dans les policiers de droit commun qui ne font pas forcément ça.
Oui, et qui n'ont pas peut-être toutes les armes ou toute l'expérience qu'il faut pour mener...
Qui n'ont pas les armes, l'expérience qu'il faut, et qui en plus sont un petit peu à la merci de la politique du chiffre.
Oui.
Parce qu'il faut savoir qu'un policier, il a des avancements de carrière aussi en fonction du chiffre qu'il fait, en fonction des infractions qu'il élucide. Et marchand de sommeil, c'est une infraction complexe. Qui demande de caractériser un certain nombre de choses et qui demande des enquêtes qui sont longues. Donc c'est compliqué d'avancer quand on est un policier carriériste. Et ben en fait on préfère faire du stupéfiant, attraper des petits stupeux de quartier et dire hop, une infraction réalisée, une infraction élucidée, j'ai des bons points, j'avance dans ma carrière, je suis bien vu de mes chefs, de mon commissaire par exemple, et ça va mieux. Donc voilà, à Marseille effectivement c'est peu. Et ça pose un autre problème, c'est-à-dire qu'en défense, donc les avocats de la défense des marchands de sommeil, ils vont souvent reprocher l'aspect un petit peu bâclé des enquêtes. Alors, elles ne sont pas bâclées, mais en fait, ces deux policiers-là, ils font ce qu'ils peuvent. Mmh. Donc, on arrive sur des enquêtes qui font parfois 5000 pages, et ça passe tout dans la machine à scanner. Et pour nous aussi, c'est difficile en tant que victime, hein, en tant qu'avocat des victimes, parce qu'on doit tout lire, et des fois, il y a des pièces en double, il y a des choses qui manquent, c'est pas trop clair... Et en même temps, on ne peut que les remercier d'écoper la mer avec un verre d'eau.
Ouais.
Mais il y a quand même eu des progrès, parce qu'il y avait des grands marchands de sommeil à Noailles qu'on appelait les loueurs aux 100 dossiers.
Okay.
Quand tu arrivais d'Algérie ou même d'ailleurs, enfin en fait peu importe d'où tu arrivais, à Noailles c'est un peu un truc de bouche à oreille. Il y avait des bureaux dans lesquels tu pouvais aller où tu avais des marchands de sommeil qui pouvaient te loger contre rémunération en cash, par exemple.
Ok.
Des trucs un peu...
C'est pour ça, sans dossier, j'avais le chiffre en tête, mais en fait, sans dossier, c'est sans SANS.
Ouais, SANS, ouais. Sans dossier, donc c'est-à-dire que tu vas là-bas, t'as pas de garant, t'as pas forcément de papier, oui. Mais t'as de quoi payer, et on va te dire, ok, moi, je vais te louer un terrain pourri là-bas.
Ouais.
Donc, il y en avait deux gros... il y avait le boucher dont j'ai parlé, il y en avait un autre, il y avait Galas avant ça qui était policier aussi, alors lui scandale du siècle, il était policier, il louait des caves,
okay. Donc,
clairement, donc il n'y avait rien qui y allait, et on a un peu mis fin en tout cas aux plus gros,
okay.
En tout cas elle chasse les plus gros marchands de sommeil, ceux qu'on connaît, ceux qu'on voit le plus, okay. Qui opèrent depuis de nombreuses années, et il y a des procès qui sont audiencés au tribunal judiciaire. Souvent, c'est dans la salle des procès hors normes. C'est la salle dans laquelle on avait, oui, fait les procès de la rue d'Aubagne.
Oui. Et du docteur Gage aussi.
En fait, et du docteur Gage.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Et du docteur Gage, quand on a plus de 100 victimes ou que c'est des procès un peu complexes,
oui,
c'est là-bas que ça se passe. Et c'est pratique parce que tout le monde peut venir.
Et assister aux audiences.
La rue d'Aubagne, c'était incroyable parce qu'il y avait un vrai tribunal populaire où il y avait, mmh, vraiment tout le monde qui venait, qui se renseignait, qui, oui, posait des questions. Qu'est-ce qui se passe ici?
J'ai même vu des crieurs publics, je ne sais pas comment on appelle ça, qui venaient devant l'immeuble effondré, enfin ce qu'il, mmh, en reste, et pour expliquer ce qui se passait chaque semaine et raconter justement les étapes du procès, où ils en étaient, l'expertise, etc. Donc c'était intéressant, c'est vraiment un procès populaire. Pour le coup, il y a populaire dans le terme, le peuple s'y intéresse et on en parle, quoi.
Ouais, tout le monde s'intéresse. C'était les crieurs publics, effectivement. Et oui, c'est ça, c'était les greffiers populaires, ils s'appelaient eux-mêmes comme ça.
C'est ça, voilà. Oui, j'y suis passé, je les ai vus, ouais, plusieurs fois. J'ai trouvé que l'initiative, ouais, était surprenante et intéressante, en tout cas. Justement, je voulais, tu en as parlé un petit peu avant, mais c'est quoi le profil des victimes? Parce que, comme tu le dis, il faut des plaintes dans le cas où il y a des marchands de sommeil, ou en tout cas, je sais pas, peut-être faut-il des plaintes, mais qu'est-ce que c'est comme type de. Tu nous as un petit peu donner un avant-goût, mais j'imagine que c'est des gens qui en fait sont souvent sans papier ou en tout cas dans une situation précaire.
Alors moi, sur le procès que j'ai fait, c'était des gens qui avaient la CAF.
Ok.
Pour pouvoir bâtir un empire immobilier sur la CAF, il faut des gens qui ont la CAF.
Donc, oui. Donc qui ont leur papier, donc, déjà. Qui ont la nationalité.
Qui ont leur papier.
Ouais,
okay. Qui, pas forcément,
oui,
la nationalité,
ou,
ou un titre de séjour.
Titre de séjour.
Je crois que c'est 5 ans de résidence, hein, pour avoir la CAF aujourd'hui. Donc ils ont plus de 5 ans de résidence, mais ils n'ont pas forcément de salaire régulier, pas forcément de garant, ou pas forcément 3 fois le montant du loyer à apporter aussi. Et ils sont prêts un petit peu à accepter des conditions de vie un petit peu indignes. Ça fait aussi partie, en fait, de la caractérisation du délit. Il n'y a pas de délit de soumission à des conditions indignes, à des conditions d'hébergement indignes, si les personnes ne sont pas vulnérables.
Ok.
Néanmoins, on a une jurisprudence intéressante qui dit que les personnes peuvent être vulnérables, tout du moins au regard du marché locatif.
D'accord.
Donc la vulnérabilité, elle peut aussi être là. C'est tout simplement, en fait, de dire « je ne peux pas vivre ailleurs ».
Oui, je n'ai pas les moyens, donc même si je ne suis pas, entre guillemets, vraiment précaire, c'est-à-dire que j'ai un SMIC, etc., genre, si j'essaie de résumer vraiment simplement pour bien comprendre, mais donc c'est si je suis dans un marché comme Marseille aujourd'hui qui est saturé, où les prix sont bien trop hauts pour moi et que je me retrouve dans cette situation-là, là, on peut considérer que c'est précaire?
On peut considérer, surtout, c'est la question de la vulnérabilité.
D'accord.
On peut considérer que tu es une personne vulnérable parce que tu as accepté de vivre dans des conditions indignes, mmh, eu égard à la saturation du marché locatif.
D'accord.
Donc en fait, il se caractérise assez facilement, ce délit, et souvent il s'accompagne de d'autres délits, notamment perception de loyer indu pendant arrêté de péril. Parce qu'on ne dit plus arrêté de péril, on dit arrêté de mise en sécurité. Quand il, oui, y a un arrêté de mise en sécurité, le propriétaire, il ne doit plus recevoir de loyer.
Oui.
Et ça, l'infraction, elle est caractérisée à partir du moment où il reçoit un loyer.
Mmh.
Et dans les marchands de sommeil, on a aussi souvent ça, en plus de percevoir des loyers, ils vont chercher les loyers,
mmh,
ils vont menacer. Et là, il y a aussi un ascendant avec une forme de capital culturel, parce que parfois, ils vont menacer aussi avec des huissiers.
Ah oui.
En disant, bah, moi, je vous envoie les huissiers, je vous envoie un avocat, je vous envoie tout le monde, vous allez dégager pire si vous ne me payez pas. Et souvent, les gens, ils payent, alors même qu'ils savent très bien qu'ils ne doivent pas payer.
Oui.
Parce qu'ils sont bien informés, les gens, aujourd'hui. Ils, oui, vont dans les points de la justice et du droit, et ils se rendent compte qu'en fait, ils ne doivent pas payer de loyer. Et alors, ils ne comprennent pas pourquoi leur propriétaire court après les loyers,
oui,
et leur met la pression pour ça.
Et du coup, comment ils peuvent. Mais comment ça se fait qu'ils payent en fait? Parce que simplement, c'est la pression, la peur?
C'est la pression, la peur. Et après, il y a des magouilles. Et ça, c'est très problématique parce qu'il y a des magouilles sur. Normalement, pour être assigné en justice, il faut qu'il y ait un exploit d'huissier. Un exploit d'huissier, c'est rien de plus qu'un huissier, donc un officier. Mmh. Un officier civil qui vient chez vous et qui vous cherche. Et que s'il ne vous trouve pas chez vous, soit en vous appelant. Soit en demandant au voisinage, il est censé vous déposer un papier dans la boîte aux lettres.
Mmh.
Moi, j'accuse pas les huissiers, j'en sais rien, mais parfois il y a des problèmes de boîte aux lettres, parfois on n'a pas les papiers, et donc souvent on a des personnes qui se font expulser. C'est très problématique parce que là, notamment mon dossier de marchand de sommeil, on attend le résultat au 15 mai,
mmh.
et on a un de nos clients qui s'est fait expulser par une décision de justice qu'il n'avait pas vue.
Ok, qu'ils n'avaient pas reçu, ils n'ont pas signé quelque chose au...
Il n'a jamais rien signé, il n'a jamais rien reçu.
Ah ouais.
Et il s'est fait expulser. En fait, avant le procès pénal, il y a eu une décision du juge civil qui ordonnait son expulsion. Entre le délibéré et entre l'audience et le délibéré, le propriétaire en a profité pour l'expulser. Donc aujourd'hui, moi, j'ai déposé une requête pour demander sa réintégration.
Mmh.
Parce que je trouve ça complètement déloyal. Que le propriétaire, il expulse. Et en fait, sa stratégie au propriétaire, parce qu'on en reparlera peut-être après, mais dans un procès de marchand de sommeil, il y a une confiscation obligatoire.
Des biens immobiliers.
Voilà. Si les juges ne veulent pas confisquer, il faut qu'ils motivent expressément leur décision pour ne pas confisquer les biens.
Oui.
Donc là, le propriétaire, il se dit, mes biens vont être confisqués. S'ils sont confisqués, ils sont vendus. Aux enchères.
Ok, d'accord.
Ils sont vendus aux enchères publiques.
Ah, donc pour moi, confisqué, c'était entre guillemets, là, c'est vraiment vendu, on les perd, quoi.
C'est vendu, il les perd, sauf qu'il sait très bien qu'on ne peut pas le priver de sa propriété sans le payer, mais on va le vendre, et donc normalement, on va lui rétribuer le prix de vente.
Ah, d'accord, donc il récupère quand même les sommes perçues.
Okay. Sauf que le prix de vente, il sera supérieur s'il n'y a pas de locataire.
Ah oui.
Et donc là, il est en train d'essayer de nous expulser tout le monde. Okay. Avant le résultat du procès.
Okay,
donc nous, on est un peu en train de trembler pour nos clients qui n'ont pas d'autre solution d'hébergement dans l'attente de ce procès-là. Mais on essaye de faire des recours en référé, on va voir ce que ça va donner. On fait du mieux qu'on peut pour les maintenir dans leur logement, au moins dans l'attente du résultat. Parce que en plus, le procureur, il a tapé fort parce que sur ce procès, on l'appelle le procès Zénou. Alors, il y avait plusieurs SCI et toute une famille entière en charge de louer ces immeubles, le procureur, il a demandé, je crois, plusieurs millions d'amendes. Et nous, on a tous demandé de l'argent pour venir réparer le préjudice subi par nos clients.
Et justement, alors, pour parler de ces clients, de ces victimes, comment... parce que si ces personnes-là, si ces marchands de sommeil, ils existent aujourd'hui à Marseille, ils sont aussi présents, c'est aussi qu'on est dans une situation qui est compliquée, puisque la ville est saturée, on le voit tous autour de nous, pour trouver un loyer, un appartement en location, c'est toujours très, très compliqué. Et j'imagine même pas pour les personnes précaires ou qui n'ont pas, justement, comme tu dis, trois fois la somme pour... comment on fait? Parce qu'une fois que... ces marchands de sommeil, ils sont entre guillemets sortis du jeu, et que comment on fait pour reloger ces personnes-là qui sont dans ces situations-là, parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix aussi.
Alors ça, c'est une réponse que moi j'ai pas. Moi, je considère qu'il faudrait construire plus de logements sociaux. Ça serait la première étape, et éventuellement après il y a d'autres voies de recours qui sont par exemple le droit au logement opposable.
Opposable, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si vous avez une décision qui vous reconnaît comme étant prioritaire par rapport aux autres demandeurs sociaux, par exemple, soit vous êtes menacé d'expulsion, en fait, il y a tout un tas de critères, ou sinon vous attendez un logement social depuis plus de 36 mois.
Mmh.
La commission de médiation des Bouches-du-Rhône spécialisée en logement, elle va prendre une décision vous reconnaissant prioritaire.
Mmh.
À partir de cette décision, en principe, le préfet, il a 6 mois. Pour vous trouver un logement social.
Okay.
Donc, c'est un recours qui fait monter votre dossier sur le haut de la pile.
Par exemple, pour les familles, on peut imaginer, ou les femmes seules avec enfants, ou les femmes...
Ou les personnes en situation de suroccupation.
Oui.
C'est un des critères pour être reconnu prioritaire.
Suroccupation, c'est-à-dire ?
Suroccupation, on considère, je crois qu'il y a suroccupation à partir de plus d'une personne pour 10 mètres carrés.
D'accord, ok.
Et c'est une situation bien plus fréquente qu'on ne le croit. Moi, j'ai plein de clients qui vivent à 6 dans un T2.
Ah ouais, donc ouais, dans des conditions vraiment, j'imagine, compliquées, difficiles,
Voilà.
quoi.
Et après, ça pose d'autres questions, parce que si on a un DALO et qu'on nous octroie un logement social dans les quartiers nord, ben, y a plein de clients qui ne veulent pas aller vivre à la Castellane.
Oui.
Mais là, c'est compliqué de refuser parce que normalement, dans la République idéale dans laquelle on est censé vivre, il y a une égalité républicaine et on ne peut pas refuser parce que c'est dans les quartiers nord.
Oui. Donc oui, c'est compliqué de. J'imagine, oui, c'est toujours des subtilités. Justement, on arrive sur la question suivante, c'est comment, enfin, d'après toi, quelles évolutions législatives ou politiques sont nécessaires justement dans cette politique du logement, ou en tout cas pour lutter contre ce phénomène présent à Marseille de manière un peu trop présente?
Moi, j'en veux à la CAF. J'en veux un petit peu à la CAF. Et en soi, ce n'est pas le fonctionnement de la CAF, mais c'est peut-être les lois qui entourent la CAF. Je trouve qu'on fait beaucoup la chasse aux indus d'APL, par exemple, ou aux indus d'RSA, et qu'on nous dit que ça représente quelques millions. Mais finalement, la CAF, par exemple, je ne l'ai pas vue, moi, sur mes procès de marchand de sommeil.
Ah, elle n'était pas présente au procès.
Elle n'était pas présente au procès. La CAF, quand il s'agit d'aller chercher l'argent chez les propriétaires ou chez les gens riches, eh ben, elle n'est pas là. Par contre, quand il y a eu 200 euros d'APL versés en trop, elle est là et elle demande les indus. Moi, je trouve ça vraiment injuste. Et puis en plus, la manne fiscale, à mon avis, des propriétaires auxquels on a versé des APL alors qu'en fait ils louent des trucs un peu pourris, elle est importante. Alors après, il y a des dispositifs, mais moi j'aimerais bien que la CAF vienne au procès, qu'elle soit là et que peut-être elle remette en question aussi, parce que parfois il faudrait un peu plus de simplicité aussi, ça, dans l'allocation des prestations sociales, parce que les règles sont extrêmement complexes. Et alors parfois, moi, ils me sucrent des APL, ils me les enlèvent pour des clients, ou le RSA, c'est pareil, alors qu'il n'y a pas vraiment lieu de le faire. Et en même temps, les règles sont tellement complexes que moi, je pardonne les techniciens de la CAF parce qu'ils ont cru que c'était l'application de telle règle, alors qu'en fait, c'était une autre règle.
Ouais, et même toi, en tant qu'avocat, quand tu te penches sur les textes, tu rentres dans le nœud.
Alors le calcul des APL, eh ben, quand je me penche dessus avec le code de l'action sociale et des familles, je me demande si je fais des mathématiques ou du droit ou de la physique quantique.
Ok,
Vraiment, c'est assez complexe, quoi. C'est un petit peu comme l'algorithme, la Parcoursup, où tout le monde est là, c'est intéressant.
Comment ça fonctionne? Machine, explique-nous.
Machine, explique-nous.
Je vois très bien. Mais justement, alors, on va passer sur une question un peu plus personnelle, mais en tant qu'avocat, est-ce que ce type de procès, il a un impact émotionnel pour toi, pour tes collègues? Est-ce que tu vois un impact, ou est-ce que c'est du travail, on va dire, commun ou quotidien?
Alors nous, on vit un petit peu dans une machine à laver. Hein. On est un petit peu. Des fois, on a des bonnes décisions, ça nous remonte le moral pendant 10 jours, et puis des fois, on a des séries de mauvaises décisions et on a envie de s'enterrer sous terre. Et en même temps, on se dit que c'est pas nous qui décidons, c'est bien les juges qui prennent leurs décisions en leur âme et conscience, et que nous, on a fait de notre mieux. C'est ça qu'on se dit. Et moi, pour me rassurer encore plus, avant de faire une requête ou de faire un recours, bah, en fait, je me fais relire
Oui.
par des confrères ou des consoeurs plus expérimentés
Oui.
pour être sûr d'avoir bien fait les choses, pour être vraiment sûr et certain. Et des fois, c'est dur. Des fois, c'est vraiment dur parce que les clients qui sont à la rue, on n'a pas de solution pour eux. Les clients, même en garde à vue, c'est très dur, ou la prison, c'est très dur. Moi, j'ai eu plusieurs clients en prison qui sont morts.
Ah
C'est compliqué à gérer parce qu'on s'est dit, bon,
ouais.
et une fois qu'ils sont morts, en plus, en fait, on n'existe plus parce qu'on n'a plus de mandat.
Oui, et on peut
Donc,
plus rien faire, c'est l'action judiciaire est terminée,
et oui, sauf si la famille nous saisit, mais souvent, c'est des gens isolés, donc pas de famille qui nous saisit. Et bah voilà, et la mort, on s'habitue pas en fait.
Ouais,
C'est
c'est
ça
vrai.
qui est compliqué, c'est
Ouais.
que même les médecins, je pense pas qu'ils s'habituent réellement à voir les gens
Ouais,
mourir, à se dire oh, c'est ok. Non,
j'espère pas. Moi, j'espère pas en tout cas pour eux.
j'espère pas pour eux non plus.
Mais justement, est-ce qu'on profite du fait qu'on soit à la radio sur Fréquence Mistral est-ce que vous avez un message à passer déjà aux victimes de ces marchands de sommeil et aux institutions, aux élus peut-être qui nous écoutent en ce moment même par rapport à justement cette problématique en tout cas du logement à Marseille?
Alors, les élus, on peut pas leur jeter la pierre parce qu'il y a eu quand même un effort qui a été fait. Et ça depuis la rue d'Aubagne, et on le voit très bien dans la rue d'Aubagne, parce que ceux qui avaient visité ceux qui avaient visité les immeubles avant les effondrements, franchement, ça ressemblait plutôt à des peintres qu'à des techniciens, qu'à des vrais techniciens en charge de gérer la technique des immeubles et de savoir s'ils vont s'effondrer ou non. Mmh. Et aujourd'hui, on a une équipe compétente, on a une mairie qui fait des efforts, mais qui manque de moyens, qui manque clairement de moyens et c'est ça qui est compliqué. Et en même temps, une mairie aussi qui cherche à se faire réélire. Mmh. Et c'est là que c'est compliqué, parce que s'ils cherchent à se faire réélire, ils cherchent pas, ils sont dans la politique politicienne. Mmh. Donc,
beaucoup d'effets d'annonce et peu d'action sur le long terme.
C'est ça. Et est-ce que lutter contre le marchand de sommeil, ça rapporte des voix?
Oui.
C'est ça la question. Le clientélisme, c'est sûr qu'à Marseille, on connaît très bien, ça va toujours rapporter plus de voix. Moi, je leur demanderais de ne pas trop tomber dans le clientélisme, de rester droit et de continuer leur combat. Et puis, s'ils ne se font pas réélire là, ils se feront réélire dans 5 ans.
Ouais.
Parce que c'est en restant droit qu'on réussit, et c'est comme ça qu'on obtient des choses. Et ce n'est pas en donnant des postes ou, pareil, sur les logements sociaux, on se doute qu'il y a du clientélisme. Mmh. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça le droit. Ce n'est pas attribuer les logements sociaux ou les places aux copains. Mais c'est bien faire en fonction des compétences de chacun pour que ça fonctionne au mieux. Donc ça, c'est le message, moi, que je passerai aux élus, et en leur disant de continuer le combat contre les marchands de sommeil et d'aller visiter les immeubles défaillants et d'essayer de trouver des solutions.
J'imagine. Et pour les victimes, du coup, comment elles peuvent agir si elles sont victimes aujourd'hui et qu'elles nous écoutent? Comment on peut agir si on sait qu'on est dans un habitat insalubre, si on en est conscient déjà, parce que j'imagine que c'est pas tout le monde, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, on peut faire un signalement sur Histologe. Mm-hmm. Ça, c'est le site de la mairie, et aussi on peut faire un signalement à la préfecture.
D'accord.
Et bien évidemment, on peut déposer plainte en disant je vis dans un logement indigne, c'est pas normal. Également, on peut faire des actions au civil, notamment pour que le propriétaire soit condamné à faire des travaux.
D'accord.
Ou on peut écrire au propriétaire, mm-hmm. écrire toujours en lettre recommandée, bien sûr.
Pour avoir des preuves.
Pour laisser des petites preuves quand même, ou par mail, et se faire informer, parce qu'en fait, ça aussi, on le voit dans les procès de marchands de sommeil, il y a des discussions entre les copros, les experts et la mairie, mais en fait, les locataires, ils sont toujours exclus. Donc demander à être dans les discussions, même si c'est des discussions techniques qui parlent d'isolation et de travaux, et ben en fait faut quand même demander à être informé, parce que l'information, si les locataires de la rue d'Aubagne ils avaient été réellement informés de tout ce qui se passait, ben en fait ils seraient pas restés.
Ils auraient pu quitter l'appartement avant de...
ils auraient compris.
Ouais.
Parce qu'ils auraient compris qu'il y avait des problèmes, c'est juste qu'il y avait des divergences de point de vue entre les experts. Mais en se renseignant un petit peu, ils auraient pu voir. Donc il faut demander à être tenu informé, et il ne faut pas hésiter à écrire à son propriétaire. Et une fois qu'on a écrit plusieurs fois à son propriétaire et qu'il ne fait pas ce qu'il faut, et ben là, il faut soit déposer plainte, soit aller voir un avocat pour faire une action au civil jusqu'à ce que les travaux y soient faits.
Bon ben, on espère que le message sera passé. On va passer sur un tout autre sujet, Adam. Donc, le média Frontières, donc média d'extrême droite, a fait une cartographie récemment de l'extrême gauche en France, donc une sorte de liste qui peut être changée, agrémentée au plaisir de médias, de personnalités, etc. Et vous avez été cité sur Twitter, X désormais, et donc pris pour cible par l'extrême droite. Déjà, quelle était la première réaction en découvrant ça?
Alors, sur la cartographie, moi, je me suis dit que j'étais de droite, parce que mon syndicat n'apparaît pas sur la cartographie. Donc, je me suis posé la question.
Déception.
On va dire que je suis de droite. Je me suis dit, en même temps, c'est pas mal, parce que c'est aussi ça, la politique, c'est savoir parler avec des gens qui n'ont pas notre point de vue.
Oui.
Et en même temps, je me suis dit, est-ce que je dois me parler à moi-même, parce que j'ai du mal à communiquer avec la droite? Je savais pas trop où me positionner. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait le syndicat de la magistrature.
J'ai pas vu ça par contre.
Ils sont entre islamo-gauchistes, je crois, et c'est quoi, les antiflics. Ils sont au milieu des antiflics.
D'accord.
Entre islamo-gauchistes, antiflics, on sait pas trop. J'ai vu aussi qu'il y avait Alain Soral. Bon, j'étais là. S'il est sur la cartographie, je suis content de pas y être non plus. Dieudonné aussi, il a mis. Bon, pour moi, c'est plutôt des gens que je classe à droite.
Ah oui, ils les ont classés à l'extrême gauche.
Vers les islamo-gauchistes. Ah, ah non, vers les antisémites, je crois.
Ah, les... ok, d'accord.
Oui, alors que bon, les gens du GUD, ils sont pas du tout antisémites, oui. Y a pas de problème.
Oui, oui, oui. Ils ont toujours œuvré pour défendre.
Y a aucun problème.
Mais justement, ouais. Cette exposition, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous met en danger ou est-ce qu'elle renforce justement vos convictions? Ou en tout cas, parce que je l'ai dit en début, mais vous êtes présent sur de nombreux procès, on va dire, politiques, polémiques. Est-ce que justement, ça renforce la conviction ou ça donne envie justement de se mettre un peu à l'abri? Comment on vit ça?
Alors, moi, il y a un petit peu un problème, mais ça, tu dois peut-être le partager avec moi. Il y a un problème de... Est-ce que c'est du journalisme?
Oui.
C'est incroyable,
c'est
quoi.
Ça, oui,
à
oui.
À quel moment... Moi, je veux bien... Alors, il n'y a pas d'objectivité. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Et ceux qui se disent objectifs, souvent, ils sont pilotés par des milliardaires juste au-dessus. Donc, oui.
Mais frontières, on atteint des niveaux de contre-vérité, de post-vérité, en fait. Ça y est, on y est, là. On est complètement dans... chacun raconte n'importe quoi.
C'est ça.
Il n'y a aucune base factuelle, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Alors, moi, un petit peu, ce qui m'est arrivé, c'est que nous, ils nous ont mis sur Twitter avec trois avocats, alors qu'on était là pour défendre les personnes interpellées en cas de garde à vue.
Mmh.
Voilà, donc on se rend disponible pour dire si jamais il y a des gardes à vue, on est là, ok. Là, le Média Frontière, il publie sur Twitter, il dit Adam Bory, Emily Jules et Clémence Lachecard sont là pour défendre les casseurs avant qu'ils ne cassent. Là, on a des espèces de nervis fascistes derrière leurs écrans qui nous mettent plein d'avis Google pourris.
Oui.
Et finalement, nous, on décide de contre-attaquer en faisant une procédure de citation directe. Alors, la citation directe, c'est quand on squeeze le procureur, qu'on dit... Parce que normalement, c'est le procureur qui fait les enquêtes et qui les traduit devant le tribunal. Et là, nous, on dit, bah, en fait, on a vu qu'il y a une infraction, on va aller tout seul devant le tribunal et on va se débrouiller pour que ces personnes-là soient traduites devant un tribunal. Et notre date de procès, c'est le 3 septembre 2025.
D'accord.
Faut savoir que ça a été très dur. Moi, ça va, je ne l'ai pas trop mal pris, mais mes camarades, notamment, qui sont des femmes, et une qui a un nom à consonance juive, bah, a eu des remarques antisémites et sexistes sur sa page Google. C'est dur à vivre. C'est dur à vivre, pas tant parce qu'on perd des clients, en fait, on s'en fout. Nous, on a du travail, on est avocat, du travail, on en a tous les jours, beaucoup trop, en fait. Donc ça, c'est pas un problème. Mais le fait qu'il y ait des attaques comme ça, frontales, en fait, on peut avoir peur. On peut avoir peur dans la rue. En plus, là, récemment, il y a eu des agressions d'avocats. Il y a eu, en même temps, il y a eu la personne qui avait fait le site des 100 avocats à abattre.
Ah oui, ça j'ai pas suivi par contre, c'est un autre...
C'était juste après, mais c'était un site internet basé en Russie, tenu par des... Et voilà, et donc en fait, on peut avoir peur.
Oui.
Moi, à titre personnel, ça va, j'ai pas peur. Mais ça, c'est peut-être mon virilisme caché dû à ma construction. Non, moi, voilà, mais je comprends que les avocats aient peur.
Ouais, normal.
Parce qu'on n'a pas de garde rapprochée. On est des citoyens ordinaires en fait.
Ouais.
Et en plus de ça, nous, on n'a pas demandé. Je veux dire, moi, je me présente pas aux élections. Hein.
Oui.
Je suis pas dans les magazines. Là, je viens Radio Mistral parce que ça me fait plaisir de te voir, mais je demande pas à être placardé sur tous les murs et je veux qu'on me laisse ma vie privée. J'ai pas demandé à être affiché comme ça sur Twitter. Ensuite, on a eu un autre problème, c'est qu'ils ont sorti un magazine. Le magazine sur l'anti-France, où en fait il recensait un certain nombre d'avocats en droit des étrangers en disant en gros le propos c'était de dire ils gagnent des milliers d'euros par mois. Il disait qu'on gagnait 5000 euros par requête, ce qui est complètement faux.
Ouais.
En fait, ils ont mis un zéro de trop. Et en plus, on gagne 500 euros et il faut diviser par deux parce qu'on a des charges.
Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'URSSAF. Voilà.
Donc, enfin, des cotisations, pardon.
Ouais.
Et donc, du coup, on a, en fait, on a des gros mensonges comme ça qui sont éhontés, qui sont dits dans ce magazine. La preuve en est, c'est qu'en fait, ils se sont trompés parce qu'à un moment donné, ils ont mis un avocat de la préfecture.
Ah, okay.
Ils voulaient attaquer les avocats gauchistes et en fait ils ont mal fait leur enquête, ils ont mis un avocat qui était avocat de la préfecture, donc qui défendait la préfecture pour soutenir les OQTF qui étaient prises.
Après, ça va dans leur stratégie parce que j'ai vu quand même que beaucoup ont fait des camps d'été là, sur cet été auprès des partisans de Donald Trump et de toute sa sphère là, qui est quand même bien active aux États-Unis. Et ils ont pris beaucoup de ce qu'ils ont appris en fait, là-bas sur les camps d'été aux États-Unis, de comment agir et notamment sur cette idée de désinformation, de donner un maximum de contenu comme ça sans vraiment vérifier les sources, de manière un petit peu comme une sorte de de diarrhée sur les réseaux sociaux, etc. Ça fait partie aussi de la stratégie, au final. Ils n'ont pas besoin de, entre guillemets, d'enquêter réellement. Ils ont juste besoin de jeter des choses en pâture et ensuite l'Internet fait le reste.
C'est ça, voilà. C'est les algorithmes font le reste. Bande de sales wok, bande machin. C'est facile de balancer sans vérifier. Plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Bientôt, voilà. Et Donald Trump, il était élu là-dessus, quoi.
Oui.
Là, il mange des chiens et des chats.
Oui, oui.
Là, c'est pas incroyable comme truc.
On a l'impression d'être dans un épisode de South Park. Moi, je m'en remets toujours pas à chaque jour. Mais justement, ce combat contre les injustices sociales qui sont menées, notamment à Marseille, par toi et d'autres avocats, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont perçus comme radicaux ? Parce que j'ai l'impression que, en fait, simplement d'œuvrer dans ces domaines-là, ça donne une étiquette directement, peut-être... alors, je ne vais pas utiliser les termes d'extrême droite parce que ça me fatigue, mais de militants, en tout cas.
Et oui, effectivement, parce que de plus en plus, les choses qui étaient perçues comme normales il y a quelques années, s'engager... en faveur des personnes sans papier, par exemple, aujourd'hui, elles sont perçues comme un affront. Un affront à la République, un affront aux pauvres. Et donc, du coup, c'est compliqué de maintenir cette radicalité-là. Alors que la radicalité, en fait, c'est juste revenir aux sources.
Oui.
C'est juste de dire, par exemple, nous, on est radical, mais tout simplement, les gens de gauche qui vont se définir comme radicaux, y en a certains qui vont se dire qu'ils sont marxistes, dans le sens où ils sont pour la lutte des classes.
Ouais.
Voilà, ils veulent qu'à un moment donné, le prolétariat, ceux qui produisent des richesses, se soulèvent et mettre à bas les gens qui profitent et qui, eux, ne produisent pas réellement de richesses, mais font fructifier la richesse. Et c'est ça être radical. C'est pas être violent, c'est pas monter sur ses grands chevaux tous les quatre matins. C'est tout simplement revenir les sources des grands penseurs qui nous ont influencés. Voilà, j'ai cité Karl Marx, mais il y en a plein d'autres. Chacun ses penseurs et chacun sa radicalité. Et quand même, moi, je pense que la famille de gauche, c'est quand même la famille de l'amour, parce que nous, on est moins s'énerver derrière nos écrans. Mais par contre, quand il y a des rassemblements, quand il y a des camarades qui sont attaqués, eh ben, en fait, on arrive à tous se retrouver de la CNT à la CFDT avec des gens qui n'ont pas vraiment les mêmes idées. Mais en fait, on arrive à se retrouver, on arrive à faire des choses, on arrive à faire des rassemblements, à manger ensemble, à discuter et à se connaître aussi, parce que ça crée aussi un réseau amical et solidaire. Alors que j'ai l'impression que à droite et à extrême droite, ils sont quand même plus isolés, plus dans leur coin.
Oui. Et plus présents sur Internet, peut-être, et les réseaux sociaux, mais moins présents dans la rue quand il faut. Oui.
Voilà. Et ensemble, surtout, ils sont plus divisés. Et là, on voit bien qu'ils perdent leur chef, ils sont en panique, quoi. Et là, ils savent plus quoi faire. On a perdu notre chef, quoi. Comment on va faire ?
Tomber dans les mains de la justice islamo-gauchiste. c'est vrai que c'est un sujet. Bon, malheureusement, on arrive à la fin de cette interview, mais on aura plaisir à te recevoir pour la suite de ces actions judiciaires dans les studios de Fréquence Mistral, sur le Mac du Midi ou à d'autres moments. On va se laisser, merci à toi
d'avoir participé. Merci, Yacine, avec plaisir.
Et bon courage. Et on va se laisser donc sur une chanson de Sam Cooke, A Change is Gonna Come, parce que on espère qu'un changement va arriver. Bonne journée à toutes et tous sur Fréquence Mistral, où que vous soyez. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep
telling me don't hang around. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my coming, but I know